Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite par l'Institut de pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert. Je recevrai aujourd'hui une de mes collègues, Sophie Tremblay. Sophie est professeure en théologie et en théologie pastorale à l'Institut. Un de ses cours préférés qu'elle donne chez nous depuis longtemps, c'est « En quel Dieu croient les chrétiens ?». Elle va aborder avec nous des questions autour de comment on aborde la question de Dieu aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire de plus spécifique à propos du Dieu des chrétiens. Sophie Tremblay, bonjour et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors Sophie, donc vous donnerez chez nous à partir de janvier un cours intitulé « En quel Dieu croient les chrétiens ?». C'est un cours que vous donnez depuis quelques années déjà.
Un des premiers que j'ai mis sur pied depuis mon arrivée à l'Institut pastoral.
Alors, c'est évidemment un sujet majeur, Dieu, mais c'est pas seulement sur Dieu que vous nous aidez à réfléchir aujourd'hui, mais sur comment on se pose, nous, la question de Dieu, ou nous, ou les gens autour de nous, face à cette question.
Oui, et je pense que c'est important de le voir, de l'envisager comme une question. Hier, la foi en Dieu pouvait être vécue comme une évidence dans notre société. En fait, toute la vie sociale la présupposait, c'était une partie de la culture commune, et c'était à l'époque mal accepté d'être athée, d'être non chrétien, puis en tout cas dans le cas du Québec, d'être non catholique. Toute la culture, toute la vie sociale créait une forme de pression en faveur de la foi en Dieu. Il y a encore des endroits dans le monde où c'est le cas présentement, mais au Québec, ce n'est vraiment plus le cas
non.
Et nous ne sommes non plus pas les seuls à être dans cette situation-là.
Non.
Certains pays nous ont précédés. Aujourd'hui, ce qu'on valorise davantage, c'est la liberté de croyance, la liberté de conscience, la liberté de religion. C'est une partie intégrante de nos institutions sociales. C'est enchâssé dans la Charte des droits et libertés. Et ce sont aussi des valeurs de toutes les cultures démocratiques dignes de ce nom.
Oui.
Donc, toutes les institutions publiques se veulent neutres pour pouvoir respecter cette liberté-là au lieu de créer une pression.
Oui, d'une façon parfois un peu gaffeuse au temps de Noël. Hein?
Souvent, par les temps qui court de manière souvent très maladroite.
Ouais, maladroite.
Mais je pense que l'intention qui est derrière est intéressante.
De respecter.
Et ce n'est pas seulement dans une métropole pluraliste comme Montréal ou bien dans une ville comme Ottawa ou comme Toronto, mais même dans toutes les régions où l'appartenance catholique demeure numériquement très importante. Le respect de cette liberté de la part des institutions, c'est quelque chose qui est au fondement même d'une société comme la nôtre.
Ouais.
Donc, ça a un effet, évidemment, sur les conditions du croire. Même quand on a reçu une éducation religieuse, tôt ou tard, on fait face à sa propre liberté de conscience. Autrefois, on pouvait l'éviter jusqu'à ce que des événements nous la mettent en pleine figure. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de l'éviter, ou en tout cas, ça demande des stratégies d'évitement, justement, pour pas se la poser. En quoi est-ce que moi, comme personne, je crois en vérité, de manière authentique? Hein? C'est ça la question de fond. Et je peux alors choisir d'assumer mon héritage, quel qu'il soit, ou de le rejeter, ou de le modifier, ou de le métisser, de le mélanger, d'y apporter des couleurs différentes de celles qu'on m'avait transmises au départ. Donc, la part de la décision personnelle devient vraiment incontournable. Alors, telle est la question qui nous est difficile d'éviter. Est-ce que je crois en Dieu? Et si oui, en quel Dieu?
Oui, et de quelle manière? Cette pluralité-là, Sophie, dont vous parlez, cette ouverture à toutes les options religieuses possibles, c'est quand même un peu inquiétant pour beaucoup de croyants, vous pensez pas?
Beaucoup de croyants vivent mal avec ça. Ils sentent une certaine fragilité du fait que leur foi n'est pas forcément partagée par tous. Puis là, vous dites liberté d'appartenir à une religion, mais ça peut être des manières différentes aussi de croire en Dieu à l'intérieur d'une même tradition ou à l'intérieur d'une même religion. Donc, cette absence d'unanimité... Donc, certains le vivent avec beaucoup de fragilité, puis aussi avec un sentiment de perte.
Oui,
on l'entend souvent.
D'avoir perdu quelque chose.
Oui. Il y a bien des personnes qui seraient portées à redonner à l'héritage religieux la place qu'il a perdue dans la société. Certains l'attribuent à la nostalgie, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus important que la simple nostalgie. Comme s'il y a quelque chose d'important qui est pour eux, qui est ébranlé, et la cause à laquelle ils vont attribuer cet ébranlement-là, ça va être évidemment le pluralisme. Ils vont dire c'est parce qu'aujourd'hui, on a toutes ces religions qui sont présentes, parce qu'il y a des immigrants qui pratiquent d'autres religions. Ils vont pointer du doigt l'athéisme ou la laïcité. Puis je peux comprendre que tous ces phénomènes-là puissent les ébranler, pour moi aussi l'avoir déjà vécu dans certaines périodes de ma vie.
Mais pensez-vous vraiment que si on réussissait par un coup de baguette magique à revenir à une sorte de Québec unanime, ça réglerait la question? Je ne suis pas sûre, moi.
Moi, je suis certaine que non, en fait. Okay. Puis, je pense aussi que le désir de renforcer le souvenir de l'héritage chrétien dans la société, il y a bien des commentateurs qui l'évoquent sous différentes formes, dans le fond, ça ne fait qu'éviter l'enjeu essentiel. Parce que l'enjeu, c'est celui de la décision personnelle de foi, de la confrontation aux grandes questions de fond et la manière dont elles vont résonner en moi comme personne. Dans le fond, il y a seulement une confrontation semblable aux grandes questions qui permet d'avoir accès à une foi qui a des racines solides, à des croyances qui ont des racines solides.
Donc, des racines à la fois dans le passé, dans ma culture, mais en moi-même aussi.
En moi-même au départ, parce qu'autrement, c'est comme si les croyances étaient simplement un exosquelette extérieur. Vous savez, ces espèces de structures mécaniques qui font qu'une personne n'a pas besoin de se porter elle-même, mais que son poids est porté par la machine.
Oui, oui.
Donc, je pense que la foi ne peut devenir solide aujourd'hui que quand elle accepte de quitter le cocon de l'évidence pour devenir une marche, pour devenir une quête vivante. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont craindre que rien qu'oser entendre les grandes questions pourrait venir détruire leur foi. On en rencontre souvent des gens comme ça en formation, formation théologique.
Quelquefois, oui.
Et c'est sûr que ça va décoiffer. Oser se poser les grandes questions, ça va entraîner certainement quelques remises en question, quelques déplacements, parfois un bon grand ménage de fond en comble aussi dans son univers de croyances. Mais moi, j'ai tendance à voir ça non pas comme quelque chose de menaçant, surtout pas comme quelque chose de destructeur, mais plutôt comme une forme de purification, d'élagage, une espèce de travail d'horticulteur ou de jardinier, parce que c'est souvent en enlevant les mauvaises herbes ou en élaguant le trop-plein de branches ou de feuilles qu'on va permettre...
À une plante de prendre sa force.
À une plante de prendre sa force, que la sève circule mieux, qu'elle puisse se renforcer.
Ça suppose qu'on se fait confiance. Ça suppose que les gens doivent avoir confiance que leur foi, elle a des racines en eux profondes.
Tout à fait.
Et que ça peut résister à beaucoup de questions. Et ça suppose qu'ils ont confiance en leur capacité de réfléchir, Sophie, parce que dit comme ça, les questions sur Dieu, ça pourrait avoir l'air... je sais pas, abstrait, ou j'entends des gens dans ma famille qui diraient « Ah, c'est bien intellectuel, ton affaire. »
Du pelletage de nuages.
Pourtant, il me semble que réfléchir, c'est pas un luxe d'intellectuel. Mais peut-être que les gens doivent apprendre à se faire confiance.
En fait, les gens sont beaucoup plus capables de réfléchir qu'ils se l'imaginent, mais souvent... ils vont entendre d'autres poser ces questions-là de manière inabordable. Je pense que c'est important que ce soit dit aussi.
Un peu comme des philosophes abstraits. Là.
Oui. Donc, parfois, il y a des livres ou des cours qui vont produire un effet rébarbatif, qui vont donner aux gens l'impression qu'ils sont incompétents à réfléchir, alors que c'est pas le cas. La question de Dieu est pas forcément quelque chose de compliqué, en tout cas certainement pas d'incompréhensible.
Moi, je dis toujours aux étudiants que c'est pas Dieu qui est compliqué, c'est nous autres. Et on peut pas faire autrement, donc on n'a pas à se le reprocher.
Et puis aussi, c'est que c'est pas juste une question d'idées. C'est pas juste une question de concept.
Non.
Ça ne touche pas que le cognitif. Ça, c'en est seulement qu'un aspect. C'est une question qui est vitale, qui est existentielle. Ça touche ma spiritualité. Ça touche mon affectivité, mes relations avec les autres.
Mon histoire personnelle. C'est ça.
Exactement.
C'est comme, je vous interromps, excusez-moi, mais c'est comme des parents qui décident de réfléchir à ce que c'est être parent.
Oui.
C'est pas un discours abstrait et universitaire. Ils vont aller puiser dans leur expérience. Mais réfléchir, c'est quand même aussi prendre du recul. C'est une opération de l'intelligence.
Exactement.
Mais tu vas chercher dans ton cœur, dans ta tête, dans ton passé.
Exactement. Dans toutes les dimensions de la personne qui sont appelées à travailler ensemble et non pas à mettre de côté toute une part de ce qu'on est pour travailler seulement qu'avec les neurones.
Donc, réfléchir sur Dieu, c'est un peu comme ça aussi.
Oui, c'est réfléchir aussi avec le cœur. Puis c'est réfléchir à partir des enjeux concrets qui sont présents dans nos vies. parce que la manière dont je crois ou dont je ne crois pas va influencer ma manière d'agir, ma perception des autres, mon positionnement éthique. Ça ne peut pas me laisser indemne, ma conception des personnes, ma conception de la vie humaine. D'ailleurs, il y a un théologien que j'aime beaucoup, un grand théologien suisse, Maurice Zundel, qui demandait toujours « quel homme et quel Dieu ?» Pour lui, c'était inséparable.
Oui, le type de Dieu auquel on croit conditionne notre vision du monde. Hein?
Exactement, puis notre vision des personnes humaines, de la société.
Puis des fois, je me
demande... Et vice-versa.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Des fois, je me demande si ce n'est pas aussi l'inverse. Ma façon de voir le monde m'amène à créer certaines images de Dieu.
Tout à fait, c'est des vases communicants.
J'imagine, oui.
Oui.
Par contre, nous, on parle comme ça de réfléchir sur Dieu, mais on ne peut pas considérer que ça intéresse tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question de Dieu, il y a des gens qu'elle n'intéresse plus. Bon, il y a toutes sortes de mots pour exprimer tout un éventail de positions face à la question de Dieu. Vous pourriez nous les rappeler, peut-être en éclairer certains, s'il vous plaît?
Oui, donc il y a un certain nombre de postures ou de positions différentes. Les gens s'en réclament. C'est pas toujours clair ce qu'ils mettent là-dessous. Mm-hmm. Ça peut être intéressant, effectivement, d'apporter quelques nuances.
Bon, il y a agnostique, athée.
C'est pas la même chose. La position agnostique, c'est une position qui dit essentiellement ceci: je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir si Dieu existe ou n'existe pas, donc je demeure en retrait.
D'accord. Agnostique. Agnose, connaître.
Ouais.
On pense
donc c'est,
to know en anglais, c'est ça?
Tout à fait.
Donc, on n'en sait rien.
Oui. Alors, il y a des gens pour qui l'agnosticisme va être plutôt de type sceptique, qui va être de dire, puisque de toute façon, on ne peut pas trancher la question, alors ça veut dire que c'est une question qui n'est pas si importante, alors je vais la laisser flotter, je vais l'ignorer, puis je vais m'occuper de ce sur quoi j'ai de la prise, de ce que je peux connaître.
D'accord.
Et il y a des gens pour qui l'ouverture va être plutôt positive, qui va être celle de dire, il y a comme une recherche, il y a quelque chose d'intéressant à entendre dans les différentes posture des gens qui croient ou qui ne croient pas. Il y a quelque chose à apprendre dans tout ça. Il y a comme une espèce d'idée de recherche, de curiosité, d'ouverture. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui vont avoir une forme d'agnosticisme ouvert. Alors qu'il y en a pour qui ça va être plutôt sceptique. Donc, ça, c'est pour l'agnosticisme.
L'athéisme, c'est une position plus
claire. C'est une position qui énonce une forme de certitude personnel, qui est de dire, de cet ordre de réalité que certains nomment Dieu au singulier, au pluriel ou divin, de cet ordre de réalité, moi, je dis qu'il n'existe rien.
Ouais.
Cela n'existe pas, cela n'est pas, cela est une fausseté, cela est une illusion. Et il y a des gens qui vont en tirer simplement des conséquences pratiques et ça va se manifester par un refus, par une indifférence, par une absence d'intérêt total pour cette question-là.
Ouais,
pour moi,
agressif.
C'est réglé.
Ouais,
c'est je passe à autre chose, je veux rien savoir. Mm-hmm. Tandis qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus chercher à convaincre
de
ceux qui croient ou ceux qui se posent des questions qui sont un petit peu stupides de croire. Parfois pas mal stupides, en fait. Il y a des athées qui peuvent avoir le verbe assez haut de ce côté-là.
Agressant un peu.
Alors qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire athées qui sont en réalité plutôt anticléricales.
Ah bon?
Oui. L'anticléricalisme, dans le fond, c'est de rejeter l'ingérence des clercs, des responsables de l'Église dans la vie publique.
Okay. Et ça pourrait être de toute institution religieuse?
De toute forme d'institution religieuse. D'accord. Alors, vous allez avoir des gens qui sont des croyants anticléricaux. Généralement, les athées le sont aussi, encore que ça peut arriver qu'il y ait des athées qui considèrent de manière assez positive les institutions ecclésiastiques. Oui. C'était le cas de Charles Maurras, par exemple, avec l'Action française au début du 20e siècle. Mm-hmm. Donc, parfois, certains esprits plus conservateurs vont admirer l'institution catholique tout en étant athées.
Mm-hmm.
Donc, l'inverse est plus souvent vrai.
C'est-à-dire des gens qui peuvent croire peut-être que Dieu existe, mais qui veulent surtout pas d'institution pour les achaler avec ça.
Exactement. Alors, vous avez toutes sortes de nuances, de demi-teintes à l'intérieur de ça.
Ouais.
Bon, parfois aussi, on évoque les sondages dans lesquels on demande aux gens, est-ce que vous croyez en un dieu, en des dieux, à quelle religion appartenez-vous? Et il y a des gens qui vont cocher sans religion. Sans religion, bon, évidemment, il y a des gens qui sont athées ou qui sont agnostiques qui vont se reconnaître de cette façon, mais il y a aussi des gens qui sont croyants, pas nécessairement croyants dans une tradition religieuse, mais qui vont dire, je suis croyant sans religion. Alors, ça aussi, ça existe. Donc, il faut considérer toutes ces nuances-là entre les croyances, entre l'appartenance ou non à une religion, puis aussi la spiritualité.
Oui, parce que on n'a même pas parlé de la spiritualité, puis on ne développera pas. Mais déjà ça, ça pourrait être une autre zone de l'expérience humaine qui pose pas un Dieu personnel comme existant, mais...
Tout à fait. Alors... Puis que spiritualité et religion, c'est des cousins proches. Puis il y a une part des deux qui est comme une espèce d'intersection entre deux ensembles. Hein?
Oui.
Parce que pour beaucoup de gens, appartenir à une religion, ça implique aussi une spiritualité.
Oui, oui.
Mais il y a bien des gens pour qui la spiritualité se vit sans religion.
Et même sans Dieu.
Et même sans Dieu. Oui. Hein? Il y a des athées qui disent avoir une spiritualité. On parle aujourd'hui d'une spiritualité athée. On n'aurait même pas évoqué la chose il y a 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a un courant de ce côté-là.
Donc, c'est ça, le spirituel est beaucoup plus vaste, alors c'est un territoire qu'on va moins explorer.
Tout à fait.
Parce que ce que vous nous avez situé, c'est les diverses... C'est un éventail de positions face à la question de l'existence de Dieu, finalement. OK.
Oui.
C'est quand même... Il y a des gens, vous savez, Sophie, qui sont surpris que pour d'autres, ça soit si peu crédible de croire en Dieu. Il y a des gens que ça surprend et qui même, j'en soupçonne certains, qui vont mettre l'étiquette croyant sur la tête de gens qui n'en veulent pas du tout, puis on dit, oh, au fond, ils croient quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Pourquoi des gens peuvent vraiment fonder leur décision qu'il n'y en a pas de Dieu?
La première chose qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a des gens qui ont une qualité d'être, une spiritualité, des valeurs, une éthique, et qui sont non-croyants. Puis je pense que c'est très important d'être capable de le reconnaître. Hein? Ça, c'est la première chose.
Et pas d'en faire des chrétiens malgré eux,
de pas en
surtout,
faire des chrétiens. Il y a un grand respect de cette liberté-là. Les mots qu'une personne emploie pour parler de sa croyance, on doit les prendre au sérieux et certainement pas lui imposer une autre étiquette, à moins que la personne elle-même soit plus trop sûre de ce à quoi elle croit, puis qu'elle cherche une autre dénomination.
C'est autre chose. Là. Mais tu sais, je pense à Albert Camus, quand j'étais à l'école normale, ben c'est ça, cette position était claire, c'est un homme absolument admirable.
Admirable en tout point, tout à fait.
Et ben c'est ça, non, pour lui, Dieu n'existe pas. Il y a quelque chose, je dirais, plus aujourd'hui dans la culture qui facilite une sorte de prise de position sur la non-existence de Dieu.
Mais probablement qu'aujourd'hui, c'est plus confortable de se dire non-croyant ou de se dire très loin de ces choses-là que de s'affirmer croyant au Québec. Je le pense. Je suis pas la seule à le penser. Mm-hmm. Charles Taylor a écrit un long bouquin, L'âge séculier, où il décrit c'est tout un changement de civilisation, c'est pas seulement au Québec, hein. Il y a quelques siècles, quelqu'un qui était athée était considéré comme fou. J'ai l'impression qu'il y a peut-être 150 ans, ça devait être assez semblable au Québec aussi.
Ouais.
Maintenant, aujourd'hui, parfois, c'est les croyants qui peuvent être considérés comme fous.
Oui,
Les gens qui ne croient pas en Dieu apportent des remises en question sérieuses qu'on peut pas balayer du revers de la main.
Ouais.
Puis je pourrais vous dire quelques mots sur les raisons de ne pas être croyant, les raisons que les gens évoquent. Il y en a de toutes sortes, hein? Bon, vous avez des athées ou des agnostiques qui vont plutôt se réclamer du rationalisme et de l'empirisme aussi, c'est-à-dire du fait que la raison, les sens, l'observation, si on les pousse jusqu'au bout, nous montrent que Dieu, on peut pas le percevoir avec les sens, on peut pas en faire la démonstration rationnelle d'une manière irréfutable, donc comme cela ne peut pas être prouvé, donc cela est faux.
Oui, hein? Ça échappe.
Donc, il y a des gens pour qui c'est purement irrationnel.
C'est ça.
La difficulté, par contre, ça, faut être honnête avec ça, c'est que l'inexistence de Dieu ne peut pas être davantage prouvée. Mais il y a des gens pour qui la démonstration fait pas de doute.
Ouais,
comme il y a des gens pour qui l'existence de Dieu est une évidence telle que... Hein? Donc, vous avez des
je comprends. Mais je dirais, à la décharge là-dessus des croyants, que l'irrationalité de l'être humain est aisément démontrable.
Oui.
Et que, autrement dit, il y a plein de choses, il y a plein de zones de l'expérience humaine qui échappent à toute rationalité. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein?
Tout à fait.
Ouais. Mais je comprends que, oui, on est dans une culture donc de la logique, de l'empirisme.
Donc, pour certaines personnes, c'est ça la corde sensible. En tout cas, c'est leur voie de réflexion principale. C'est là que ça les accroche. Il y en a d'autres, ça va être d'autres choses. Ça va être de percevoir la foi comme quelque chose d'aliénant, comme quelque chose qui est raptiste, qui est... restreint l'envergure de l'humanité, qui vont le percevoir comme une illusion, un mythe, un conte, un rêve de grandeur, l'opium, une béquille, l'opium du peuple, quelque chose qui nous anesthésie puis qui nous empêche de faire face à la réalité dans toute sa rigueur, dans toute sa difficulté. Donc, on va percevoir comme si être croyant, c'est être infantile.
Il y a aussi des preuves dans l'histoire que ça a été ça.
Ben, tout à fait. Puis dans l'histoire, puis dans le présent, il y a des gens qui vivent leur foi de cette façon-là.
Oui, mais il y a eu aussi une église qui a infantilisé, je dirais, à une certaine époque, d'une part. Et puis, la religion a été utilisée comme béquille ou comme fuite.
Et il y a des gens qui l'utilisent encore aujourd'hui de cette façon-là.
Bien sûr.
Maintenant, il y a des gens pour qui la foi n'est que cela.
C'est ça.
Et ils vont avoir cette. Il y a des gens pour qui il va avoir vraiment une expérience éthique forte qui va être celle de dire me libérer de cela, c'est accéder à ma vraie stature.
D'être humain
adulte.
C'est l'homme contre Dieu jusqu'à un certain point. Si je fais de la place à Dieu, je m'enlève quelque chose.
Exactement.
Et donc, Dieu est la religion devient un adversaire.
Donc, je vais vivre sans illusion, puis je vais me tenir plus debout que les gens qui trouvent une consolation. C'est beaucoup l'idée que la religion est une consolation.
Quand c'est dit comme ça, c'est un peu méprisant.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a toute une part de l'expérience des croyants qui est plutôt le contraire de la consolation, qui est de l'ordre du dépassement, de l'ordre de l'interpellation. Et ça, généralement, ces gens-là ne le perçoivent pas dans l'expérience croyante.
Oui, je comprends.
Un autre élément important, c'est l'existence du mal et du malheur. Et même si on est à une époque où on dit qu'il n'y a pas de péché, que juste de l'évolution personnelle, en même temps, on tape sur la tête des coupables et on a bien besoin d'en chercher, d'avoir des boucs émissaires partout. Donc, on n'est pas confortable avec la question du mal et du malheur.
C'est vrai.
En tout cas, on a plus de facilité à pointer du doigt celui que les autres commettent.
Mais il y a le mal absurde aussi. Là, vous parlez du mal moral.
Il y a
les tsunamis puis les tremblements de terre.
Les éruptions volcaniques, les famines.
Les enfants qui naissent avec une maladie mortelle. Je me souviendrai toujours de Sol, de Marc Favreau, que j'aimais beaucoup, qui disait, lui, avec beaucoup de simplicité et d'humilité, « Moi, je suis plus capable de croire en Dieu parce qu'il y a trop d'enfants qui meurent pour rien, puis je voudrais qu'il fasse quelque chose. Alors, s'il fait rien, je pense qu'il doit pas exister. »
Exactement, parce qu'autrement, ce serait difficile de lui trouver des excuses.
Puis il disait ça douloureusement, Marc Favreau, vous savez. Oui, je trouvais ça interpellant.
Alors, ces questions-là sont importantes et elles sont aussi importantes, je pense, pour les croyants que pour les non-croyants, dans la mesure où la question qui s'adresse à tous, c'est, même pour les croyants, en quel Dieu est-ce que je crois pas? Parce que si je crois en un Dieu, il y a certainement des images ou des figures ou des conceptions de Dieu dans lesquelles je dois faire un tri, dans lesquelles je dois faire un ménage. Parce qu'il y en a des volets de toutes les sortes, souvent contradictoires.
Ouais.
Et puis, j'ai à quelque part à faire une espèce de tri ou de discernement à l'intérieur de ça.
Ouais. Et là-dessus, les athées, comme les autres, nous renvoient... Enfin, le Dieu auquel un athée ne croit pas, il y a des chances que j'y crois pas non plus.
Souvent, c'est le cas.
Souvent, c'est... Et donc, c'est bien parce que, d'une certaine manière, ça nous renvoie à notre perception, au besoin de préciser nos propres images de Dieu.
Oui. Ça nous renvoie aussi au fait que le comportement des croyants est aussi un facteur qui va influencer la manière dont on va percevoir Dieu et la foi en Dieu. En même temps, ça peut pas non plus faire écran au fait que les croyants peuvent être souvent pas du tout à la hauteur, mais en soi, ça fait pas disparaître la question « est-ce que Dieu existe? »
Oui, puis pas juste les croyants, mais les institutions aussi de la chrétienté, par exemple, ou de l'islam.
Ou d'autres institutions
bien sûr, religieuses. Il y a des choses, il y a des fois des décisions ou des déclarations tenues par des représentants officiels des religions qui donnent plus envie d'être religieux du tout à certains moments.
Par moment, mais c'est le comportement de certains croyants, au contraire, qui va devenir une espèce d'ouverture à une autre dimension de la vie. Il y a des gens qui deviennent croyants à l'âge adulte parce qu'ils ont été impressionnés de voir des croyants, des croyantes capables de tenir dans des situations de misère, de difficulté, de demeurer bons et proches des autres là où tous les autres ont baissé les bras.
Mm-hmm.
Donc,
Et qui pouvait dire, ce qui me permet d'agir comme ça, c'est mon rapport à Dieu.
Exactement. C'est ce qui me donne le souffle, l'élan et le sens pour être capable d'habiter les zones les plus repoussantes puis les plus souffrantes de l'expérience humaine, puis de l'habiter avec les autres qui souffrent à l'intérieur de ça.
Toujours en compagnie de ma collègue Sophie Tremblay, nous parlons de rien moins que la question de Dieu. Sophie, vous terminez en disant beaucoup du Dieu auquel on croit peut apparaître ou devenir crédible dans la manière dont on agit. Ça implique qu'il y a certaines manières de percevoir Dieu, certaines conceptions de Dieu. Et là encore, il y en a plusieurs dans notre culture. Vous pouvez faire un petit peu le tour de quelques-unes, s'il vous plaît.
Alors, oui, quelques formes de croyance en Dieu. C'est des mots qu'on entend parfois énumérer, là, mais je vais essayer de préciser un petit peu chacun.
Oui.
Quelle forme de croyance au divin, en Dieu ou au Dieu au pluriel dont il est question? Alors, on entend parfois parler de monothéisme, et là, on va désigner principalement le christianisme, le judaïsme et l'islam comme des religions monothéistes. Donc, le monothéisme, c'est la foi en un seul Dieu, qu'il n'existe qu'un seul Dieu, peu importe comment il est nommé par les sociétés, par les cultures, par les religions, il n'en existe qu'un seul.
Et donc, on sait bien à ce moment-là que le Dieu des chrétiens est aussi le Dieu de l'islam.
Exactement.
Et le Dieu, c'est le même.
Tout à fait.
Puisqu'il n'y en a qu'un.
Ouais.
D'accord.
Vous avez le polythéisme.
Alors, ça doit vouloir dire plusieurs.
Que le divin, oui, c'est croire que le divin est pluriel.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il prend plusieurs formes, qu'il existe un monde divin. Et qu'il y a des entités divines différentes. Bon, je dirais que la facette la plus apparente de l'hindouisme, c'est à ça que ça ressemble. Puis en même temps, l'hindouisme a le paradoxe d'être, on pourrait dire, en même temps, une espèce de monothéisme polythéiste ou un polythéisme monothéiste.
Ouais.
C'est assez complexe.
Oui, c'est complexe.
Ouais.
Ça, au fond, ça me rappelle plutôt, moi, les religions de l'Antiquité. Hein, le polythéisme, il y avait Jupiter, Mars. Bon, je ne suis pas en train de nommer les planètes du système solaire,
oui,
mais les dieux de Rome.
Oui, on va parler d'un panthéon, c'est-à-dire de toute une famille, d'une galerie de divinités.
Ouais,
tout à fait. Puis dans bien d'autres cultures, il y en a aussi.
Oui. Panthéon, le panthéisme existe aussi, mais c'est autre chose.
Oui. Le panthéisme, c'est un mot qu'on entend moins souvent, mais en réalité, je pense que beaucoup de gens croient de cette façon-là aujourd'hui. Le panthéisme, c'est de croire qu'il n'existe pas comme tel de Dieu personnel, mais que c'est comme s'il y avait une espèce de réalité divine démultipliée, fragmentée un peu partout à travers ce qui existe.
Ouais, comme une étincelle de divin.
Exactement, ouais.
Alors, donc, dans les ruisseaux, dans les pierres, dans les montagnes.
Dans les personnes.
Dans les personnes.
Souvent plus dans les personnes que dans les choses.
Ouais.
Là. Mais donc, de croire qu'il y a une espèce de divin éclaté en mille morceaux qui, à la limite, pourra se refusionner en une espèce d'unité finale à un moment donné.
Mm-hmm.
Hein? Mais donc, c'est de dire, je suis Dieu, tu es Dieu, il est Dieu, il y a quelque chose de ça.
La divinité à l'état d'atome, atomisée.
Ouais.
OK. On entend parler de déisme parfois.
Oui, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'une forme de croyance qui a été extrêmement populaire au 18e siècle, à l'émergence, dans la grande période de la philosophie des Lumières. Il y a encore bien des gens qui croient de cette façon-là aujourd'hui. Donc, c'est de croire d'une manière, on pourrait dire, monothéiste, mais sans révélation. C'est-à-dire de croire que par la raison, par l'observation de la nature, par l'espèce de moralité inhérente à l'humanité dans le meilleur des cas, ça révèle qu'il existe une espèce de grand architecte de l'univers ou d'être suprême.
Oui, c'est l'expression que j'avais, grand architecte, grand horloger, ça vient de là.
Le grand horloger, ça vient de Voltaire, donc c'est tout à fait dans ce courant-là. Alors, rien à voir avec les religions, mais en réfléchissant un peu, on peut se rendre compte qu'il existe cet être suprême. Et c'est en étant le meilleur humain, le plus honnête homme possible, à ce moment-là, que je vais pouvoir honorer ce Dieu-là.
Mm-hmm. D'accord.
Un autre mot. Alors, il y a un nouveau mot qu'on voit présentement dans les librairies. Il a fait son apparition aussi sur Internet. C'est le mot anathéisme. A-N-A-T-H-E. I-S-M-E.
C'est toujours avec théisme, hein, pour Dieu.
Oui, pour Dieu.
Et un préfixe. Alors là, c'est Anna, le préfixe.
Oui. Donc, on va le retrouver sous la plume de quelques auteurs ou philosophes comme Jean-Pierre Marion ou Richard Carney. Donc, c'est de considérer qu'aujourd'hui, on se situe dans une espèce d'après-mort de la mort de Dieu.
Mm-hmm.
Hein? Il y a bien des gens qui ont dit qu'on était dans l'époque de la mort de Dieu, mais c'est de dire on est ailleurs, on est en train d'aller ailleurs.
Oui.
Donc, dire anathéisme, ça parle à la fois d'un non-athéisme ou d'une forme de retour au théisme, mais quand même sous une autre forme, c'est-à-dire en présupposant toujours la liberté de croire. Le fait qu'il y ait comme toujours un saut à faire ou une décision personnelle de conscience à prendre,
mm-hmm,
et que jamais l'idée de Dieu ne peut être prise pour acquis, puis que la liberté de croire ou de ne pas croire est quelque chose qui est fondateur à l'intérieur de la société, puis qui est à valoriser même à l'intérieur des religions.
D'accord. Et c'est une situation permanente de la personne, c'est-à-dire...
Ouais.
OK, c'est jamais une divinité qui va de soi,
ouais,
mais la question du divin est toujours là et pertinente, si je comprends
exactement
bien.
Exactement.
C'est ça, l'anathéisme.
Tout à fait.
Ça vous rappelle pas André Malraux, qui disait donc que le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas, c'est ça un peu?
Ça touche à ça.
Ça rejoint un peu.
Puis c'est ce qui fait qu'on peut se sentir proche parfois, croyant et athée, en valorisant cette liberté-là, en se respectant puis en étant capable de reconnaître qu'on s'apporte les uns aux autres. Mm-hmm, et que jamais rien ne peut être pris pour acquis de ce côté-là.
Alors, Sophie, dites-moi donc, en 20 minutes, en quel Dieu croient les chrétiens? Autrement dit, croire en Dieu, c'est une chose. On n'a rien dit encore. Lorsque je dis « je crois en Dieu », j'ai rien dit de à quel Dieu je crois, quelles images j'ai de lui, quels traits je place sur lui.
Alors, ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Dans une culture comme la nôtre, qui a baigné dans la tradition chrétienne pendant des générations, d'une certaine façon, on a un peu ignoré qu'est-ce qui était l'originalité de cette vision chrétienne de Dieu. Dès quand c'est une évidence, on perd de vue l'originalité ou la spécificité.
Oui, puis quand il n'y a pas de point de comparaison, parce que tout le monde pense la même chose ou est censé penser la même chose.
Tout à fait.
Là, c'est la pluralité qui fait qu'on perçoit les différences.
Oui.
Oui.
Alors, ça nous amène à nous demander s'il y a une manière chrétienne de croire en Dieu, quels en seraient les traits, quelles en seraient les caractéristiques.
Les traits, fondamentaux du Dieu des chrétiens, disons.
Exactement. Donc là, je peux vous en préciser quelques-uns.
S'il vous plaît.
Alors, en premier lieu, nous, chrétiens, croyons en un Dieu qui prend l'initiative de se révéler. Pas un Dieu qui est conquis par la force de notre réflexion, mais qui, lui, prend l'initiative de venir vers nous.
Bon, d'abord, par rapport à ce que vous avez dit avant, ça suppose un Dieu personnel, c'est-à-dire qui est personnalisé par rapport, disons, au panthéisme.
Exactement, le contraire d'un Dieu impersonnel.
D'accord. Et deux, un Dieu qui prend l'initiative de se révéler par rapport au déisme, où c'est un Dieu que je peux déduire par ma raison logique.
Exactement, vous avez tout compris.
D'accord. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis pas raisonnable ni logique, ça veut dire que Dieu, dans la foi chrétienne, et là-dessus, je pense qu'on partage ça avec les Juifs et les musulmans.
Avec les Juifs et les musulmans.
Un Dieu qui prend l'initiative de se faire connaître à l'être humain.
Exactement. Puis pour nous, la fine pointe de la révélation, elle nous est accessible dans les textes du Nouveau Testament.
Oui, pour des chrétiens, c'est ça.
Pour des chrétiens, c'est là qu'est, dans le fond, le cœur, le centre, la base. C'est l'expérience des premiers disciples qui a quelque chose de fondateur.
C'est la révélation de Dieu en Jésus-Christ.
Exactement. Et c'est pour ça que dans les célébrations liturgiques chrétiennes, l'Évangile, les lectures de l'Évangile sont toujours les lectures les plus importantes.
Oui.
C'est les morceaux de la Bible qui vont être les plus valorisés, qui vont avoir une importance plus grande que les autres. Et ça, ça va nous différencier, évidemment, de ceux qui sont, comme nous, fils et filles d'Abraham, qui vont percevoir la révélation autrement.
Oui.
Là-dessus, il y a quelque chose qui nous est vraiment spécifique.
Oui, c'est pas seulement l'Évangile, c'est aussi ce qu'on appelle, puis ce qu'on va fêter dans 2-3 semaines, l'incarnation.
Tout à fait.
Donc, un Dieu qui s'aventure chez les hommes, pourrait-on dire.
Et c'est ce qui va être considéré comme extrêmement problématique, scandaleux.
Bien sûr.
Inacceptable chez bien des Juifs et bien des musulmans.
Oui, et puis
peut-être... C'est une espèce de pierre d'achoppement, ou en tout cas un élément de différenciation qui est vraiment
fondamental. C'est l'originalité chrétienne.
Exactement. Mais tout découle de là.
Vous pensez pas que... Moi, je trouve, je ne demanderai pas si vous le pensez, je trouve que ça devrait être un peu plus choquant, un peu plus scandaleux chez les chrétiens aussi. On mesure peut-être plus ce qu'il y a de choquant et de scandaleux dans cette aventure.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, ça fait partie des éléments que je trouve tellement importants d'essayer de développer à l'intérieur du cours que je donne, de retrouver cet étonnement devant la nouveauté chrétienne. Au lieu de le voir comme quelque chose de vieux, de ressassé, de déjà vu, il y a vraiment quelque chose, à la limite, on pourrait presque dire de choquant.
Oui.
Beaucoup le vivent comme, le voient comme choquant.
Je le pense.
Ouais. Donc voilà, c'est pour nous le cœur de la révélation et ça va remettre en question une certaine conception du Dieu unique. Ça, c'est.
Ah, oui.
Oui, tout à fait. Parce qu'on croit que Dieu nous est révélé à travers un nouveau-né, à travers un homme qui va être crucifié et qui va mourir comme un bandit, la mort la plus infamante possible
à son époque.
À travers, finalement, quelqu'un qui va vivre sans faux fuyant ou sans cachette la fragilité humaine dans ce qu'elle a de plus extrême. Exactement le contraire de l'image humoristique qui avait été développée par le groupe RBO, là, Super Jésus, qui plane sur sa croix, là, puis donc c'est exactement le contraire de ça.
C'est pas un super héros, pas de miettes.
Non, c'est exactement le contraire de ça. On pourrait dire anti-héros même à la limite. Mm-hmm. Et il va refuser ça. Hein. Il y a des textes comme par exemple les récits des tentations qui nous montrent Jésus refusant carrément cela. C'est très très fort comme. Comme affirmation, comme option.
Et donc, ça nous dit quelque chose de fort sur les options de Dieu lui-même.
Exactement, tout à fait.
Alors, c'est quoi? Ça veut dire que c'est plutôt un Dieu, enfin, pas tout puissant, ça serait quoi?
Un Dieu dont la puissance se manifeste certainement pas de la manière qui nous est spontanée, mais d'une manière paradoxale. Dans la mesure où on va accepter de prendre le même chemin, qui va être celui d'aller jusqu'au bout de notre fragilité, sans la fuir. Mm-hmm. Parce que c'est à travers cette expérience de notre fragilité que notre cœur va pouvoir être attendri, transformé, de manière à atteindre à un amour de plus en plus grand. Et c'est vraiment ce qui va être dominant pour nous dans notre manière de concevoir Dieu comme chrétien, de voir cet amour absolu qui passe avant tout. Hein? C'est pour ça que François Varion écrivait dans « Joie de croire, joie de vivre » « Dieu n'est qu'amour ». Et si on lui donne quelques caractéristiques ou quelques qualificatifs que ce soit, il faut toujours le rapporter à l'amour. Alors, on peut jamais parler, par exemple, de justice sans dire que c'est l'amour qui est juste. C'est la justice de l'amour qu'on va voir en Dieu.
C'est pas nécessairement une justice qui calcule. C'est déjà autre chose si on parle d'amour.
Complètement autre chose. Cet amour va faire qu'on parle d'un Dieu chez qui le don est fondamental. Il est don. D'une manière que nous n'arrivons pas à être.
C'est sa nature profonde, attribut par-dessus.
Exactement, okay. C'est ce qu'il est. Alors que pour nous, le don est toujours quelque chose comme un arrachement. Mm-hmm. Ça prend toujours, comme si ça nous enlevait quelque chose. Alors qu'en réalité, en Dieu, le don, c'est la surabondance de l'être.
Ah oui, ouais. C'est donc sa vraie nature.
C'est donc sa vraie nature.
D'accord.
D'être don, don gratuit, don total.
C'est d'être Dieu que d'être don.
Exactement.
D'accord.
Alors, non seulement là, on n'est pas dans le super Jésus, mais on n'est pas non plus dans l'image d'un Dieu de majesté, une espèce de potentat.
Tout puissant. Qui est content d'être tout puissant.
Qui contrôle tout. Qui veut absolument se faire flatter dans le sens du poil, puis si on lui fait pas les éloges de la bonne façon, on va payer pour. Donc, il faudrait gagner les faveurs. Ça, c'est plus Zeus ou Jupiter, là.
Mais en
fait, c'est pas le dieu chrétien.
Je vous écoute, mais c'est comme ça qu'on se représentait les empereurs et les rois, au
Tout
fond.
Tout à fait.
Avec raison, d'ailleurs, les empereurs et les rois devaient être comme ça. Et on mettait ça juste en plus grand, en plus gros, on mettait ça sur Dieu.
Oui. Alors, il y a quelque chose de férocement, c'est pas pour rien que les chrétiens se faisaient reprocher d'être athées par les Romains.
Non, vous répétez ça, s'il vous plaît.
Ouais. Alors, c'est pas pour rien que les chrétiens des premières générations se faisaient reprocher par les Romains d'être athées, parce qu'ils refusaient de rendre culte à l'empereur, parce qu'ils refusaient d'essayer de se gagner les faveurs de telle ou telle divinité romaine. Et il y avait une conception de Dieu qui était beaucoup plus transcendante, beaucoup plus exigeante que celle qui pouvait être commune dans la mentalité romaine.
Plus exigeante au plan éthique et tout ça.
Exactement.
Et ça apparaissait tout sauf religieux, finalement. Il y a quelque chose de non religieux dans la révélation proprement monothéiste.
Il y a quelque chose qui renvoie toujours la religion à ses devoirs.
Oh, c'est bien dit. Oui,
constamment.
Oui.
Constamment.
Vous ne trouvez pas que c'est un peu fou? Écoutez, je ne veux pas être impoli, Sophie, mais je cite Saint Paul. Hein, c'est Saint Paul qui disait « Ce qui est fou à nos yeux, c'est ce qui est sage aux yeux de Dieu. » Ou l'inverse, d'ailleurs, « Ce qui est sage à nos yeux, c'est de la folie pour Dieu. »
Alors, je pense que ça vaut la peine qu'on reprenne la citation complète. Hein,
oui.
Ça vient du premier chapitre de la première épître aux Corinthiens, passage magnifique. On le lit dans mon cours. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus force que les hommes. On est vraiment dans le paradoxe. Comme dans une espèce de renversement de notre idée spontanée de Dieu, qui a besoin d'être converti, qui a besoin d'être retourné intérieurement, d'être purifié, d'être passé au crible. Donc, il y a une forme de mise à l'épreuve constante
de nos images de Dieu.
De ça,
il y a une
épuration
de l'instinct religieux naturel,
tout à
je dirais.
Exactement.
D'accord. Et bon, écoutez, ça fait 2000 ans qu'on est censé voir ça, mais on dirait quelque part que c'est toujours une nouveauté à redécouvrir. On le découvre, on l'oublie pendant quelques dizaines d'années ou siècles et on le redécouvre.
Mais moi, je pense qu'à chaque génération, il y a des personnes qui se sont laissées interpeller à fond, mais même collectivement, c'est un travail qui est à reprendre infiniment, infiniment, et je dirais c'est le travail que Dieu fait en nous auquel on peut consentir ou qu'on peut refuser. Parfois, on va être dans un contexte qui va favoriser qu'on s'y expose davantage, mais la résistance, elle est de toutes les générations, de toutes les époques.
Oui, parce que c'est pas l'instinct religieux
c'est
naturel.
C'est pas l'instinct religieux naturel.
Et c'est pas pratique pour bâtir une religion avec des rapports de pouvoir puis des organisations. Il y a quelque chose dans ce que vous dites de Dieu qui est...
qui relativise toute
oui,
forme de tradition religieuse.
On dirait que ça se laisse pas mettre dans le placard, sur la bonne tablette. Ça marche pas.
C'est un des traits que le Nouveau Testament nous fait découvrir en Jésus, qu'on va découvrir dans Saint Paul aussi, puis qui a été jugé tellement dérangeant par leurs contemporains, décapant, complètement décapant. Donc, ça veut pas dire qu'il faut faire disparaître les institutions religieuses, mais ça veut dire que leur travail de conversion, leur relativisation par rapport à ce que Dieu veut transformer en nous, elle est toujours à reprendre.
Elle est toujours à reprendre.
Alors, c'est normal que ce soit jamais acquis puis qu'on l'oublie.
C'est pas reposant pour une institution de témoigner de ce Dieu-là.
Non.
Sophie, il nous reste pas beaucoup de temps. Je sais pas si je devrais vous embarquer dans la question de la Trinité. Ça fait partie de la représentation chrétienne de Dieu, là, trois en un. Avez-vous envie de nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, j'aurais envie de vous dire quelques mots là-dessus, dans la mesure où moi-même, quand j'ai construit le cours, je me posais la question, dans quelle mesure est-ce essentiel? Parce que, même pour moi, dans l'éducation religieuse que j'ai reçue il y a quelques décennies, là, puis je suis pas âgée, là, déjà, ça nous apparaissait simplement comme un concept abstrait, comme une espèce de jeu de l'esprit, puis entendre les homélies qu'on
faisait là-dessus.
Puis qu'on fait encore aujourd'hui, parfois, c'est un petit peu l'impression que ça donne.
Ouais.
Que c'est simplement un luxe de la pensée, mais qu'est-ce que ça change?
Okay.
Alors qu'en réalité, dire que Dieu est don, que son être même est don, ça nous amène directement à cette idée de voir Dieu comme relation en lui-même. Non pas comme une grosse boule pleine, mais comme étant don en lui-même, son être est don.
Et donc, il y a de l'altérité.
Il y a de l'altérité en Dieu.
En Dieu, pour qu'il puisse, qu'il y ait quelque chose qui peut donner à quelque chose qu'il peut recevoir en Dieu lui-même.
Exactement. On pourrait même faire une formule en disant « l'un n'exclut pas l'autre
». Ouais, ouais, ouais.
Il est en lui-même l'autre que lui-même. Puis il peut aussi nous faire exister comme autre que lui, parce que c'est son être même d'être ainsi.
Réexpliquez-nous ça. Bon, on dit quand même Trinité, Père, Fils, Esprit. Je sais que c'est un mystère, alors vous n'allez pas vraiment nous l'expliquer là comme 1 + 1 = 2, mais
oui,
j'aimerais vous entendre là-dessus.
De toute façon, l'idée, c'est pas de le voir comme un concept, mais de le voir comme un dynamisme. Puis nos frères et nos sœurs de tradition orientale, eux, ne l'ont jamais perdu de vue. Puis je dirais que ce qui fait la différence et ce qui nous a manqué en Occident, c'est la foi en l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit-Saint, c'est justement cette respiration, c'est ce souffle qui fait que Dieu n'est pas juste devant nous, mais qu'on peut voir qu'il est en lui-même dynamisme et que c'est un dynamisme qui vient nous traverser, nous habiter. Et ce qui va faire qu'on ne regarde pas Dieu comme étant face à nous, mais qu'il est... Comment dire? Il est à la fois tout autre, puis il est aussi le plus intime.
D'accord.
Au plus intime de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes.
C'est comme si vous me disiez, ce qu'on appelle l'esprit, c'est ce dynamisme-là de Dieu en lui-même, qui est un dynamisme qui nous habite aussi.
Exactement.
Et c'est ce que la tradition désigne comme l'Esprit-Saint.
Comme l'Esprit-Saint, exactement. On a beaucoup ignoré du côté catholique l'Esprit-Saint. On a célébré l'Eucharistie pendant des siècles et des siècles, amen, sans même invoquer l'Esprit-Saint sur les offrandes du pain et du vin.
Probablement parce que c'est le moins matérialisable des trois, le moins représentable aussi des trois. Il y a quelque chose de, j'ai toujours trouvé, il y a quelque chose de féminin aussi dans l'esprit.
Oui.
Qui, d'ailleurs, en hébreu, est un mot féminin.
Oui. La roi, le souffle,
oui. C'est ça. Alors, vous dites, c'est ce qui de Dieu est à l'intime de mon être et même.
Et complètement autre en même temps.
En même
temps. Cette espèce de paradoxe-là. Et le paradoxe de dire Dieu est unique et il est aussi, il est pas une boule fermée. Il est relation, il est dynamisme, il y a l'autre en lui-même.
Oui, je comprends.
Oui.
Sophie, un dernier mot sur le Dieu auquel on croit ces temps-ci, au Noël approche.
J'aurais envie de dire, pour se laisser toucher par la conception chrétienne de Dieu, par ce qu'il y a de particulier dans la foi chrétienne en Dieu, c'est de se souvenir que l'enfant de la crèche, c'est un petit nouveau-né minuscule. Avez-vous déjà pris un nouveau-né dans vos bras? On représente toujours le bébé de la crèche comme un gros bébé de 6 mois, les bras en l'air.
C'est vrai.
C'est l'extrême de la fragilité. Puis les textes qu'on va lire pour les célébrations des fêtes de Noël nous disent que c'est en ce nouveau-né que les bergers ou que les mages vont reconnaître la présence de Dieu. Hein, Dieu qui vient vers nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous, dans cette fragilité-là. Alors, j'ai envie de vous dire, laissons-nous toucher parce que ce récit très fort vient nous dire de Dieu.
Je vous remercie, Sophie, de nous avoir rappelé ce qu'il y a d'étonnant et de beau dans la façon dont la foi chrétienne perçoit Dieu. Merci beaucoup, Sophie. Grand merci à Sophie Tremblay qui a partagé avec nous les résultats de ses recherches, de ses réflexions et son enthousiasme aussi face à un thème aussi fascinant que la question de Dieu et de nos rapports un peu complexes avec lui. Sophie Tremblay donnera un cours à l'Institut de Pastoral cet hiver dont le titre est « En quel Dieu croient les chrétiens ?» Je pense que l'émission vous a donné un bon aperçu de l'orientation prise par ce cours. Il a lieu les jeudis avant midi, du 12 janvier au 26 avril, puisque c'est un cours de 45 heures, donc les jeudis de 9h à midi. Vous trouverez plus d'informations sur ce cours et sur les émissions de la série sur le site Internet de l'Institut de Pastoral au www.ipastorale.ca. La semaine prochaine, vous comprendrez que plusieurs personnes sont en vacances ou non disponibles. Et donc, je vous propose une reprise. C'est une émission qui a été diffusée en septembre avec Sylvie Latreille qui nous parlait de son expérience, presque je dirais de son aventure, avec une croyante musulmane et une croyante juive dans le cadre d'un projet de célébration interreligieuse. Sylvie raconte cette expérience et en même temps elle partage certaines réflexions sur les conditions d'une relation interreligieuse réussie, c'est-à-dire à la fois respectueuse des autres et de soi-même. Au microphone, c'est Francine Robert. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour passer cette heure avec nous dans le cadre de cette émission de la série « Croire d'hier à demain » produite par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Je vous souhaite un très beau Noël, un Noël chaleureux, réconfortant, un Noël lumineux aussi. Je vous invite à rester à l'écoute de Radio Ville-Marie et à vous joindre à nous la semaine prochaine à la même heure. Bon Noël!